Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ne m'atteigne pas et que la main du méchant ne me fasse pas fuir. Source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière.
Auprès de toi est la source de la vie.
Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons. De la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière.
Auprès
de toi, et la source de la vie,
par ta lumière.
Seigneur mon Dieu, la source de la vie est auprès de toi. Tout est en toi, tout est auprès de toi, Seigneur. La source de la vie, la lumière, la véritable lumière. Ô Dieu de grâce, cette lumière qui est inaccessible à l'homme naturel. Mais Seigneur, c'est une lumière dans laquelle nous vivrons pour l'éternité. Seigneur, nous avons soif de toi, veuille nous parler encore. Ta parole est la vérité, Seigneur, qu'elle pénètre dans nos cœurs, ô Jésus, à cette heure, et qu'elle nous donne la vie et la lumière qui chasse toute ténèbre. Merci, Père, merci. Merci. Amen. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, n'a jamais été un Dieu silencieux. Non, Dieu parle. Dieu parle. Il parle aux hommes de bien des façons. Mais bien trop souvent, l'homme l'ignore. Il l'ignore soit que ses oreilles sont bouchées, comme ses yeux par le péché, soit que par ignorance, il est incapable de discerner la voix de Dieu telle qu'elle parle d'une façon ou d'une autre, soit que par négligence, il n'entend pas la voix de Dieu. Trop négligence est-il avec les valeurs spirituelles, ne regardant qu'aux choses matérielles périssables, et il ne peut entendre la voix de Dieu. Soit que, par incrédulité, il refuse de croire à ce Dieu créateur, ce Dieu puissant, ce Dieu vivant. Il y croit comme étant quelque chose d'immatériel, un genre de philosophie, quelque chose qui ne peut expliquer et duquel, dit-il, il n'a aucune preuve, aveugle qu'il est, alors que Dieu, on le voit partout. Soit qu'à cause du rejet de la foi, il est incapable d'entendre la voix de Dieu. à cause du rejet de la foi, du rejet de cette foi qui fait vivre, de cette foi qui donne de l'espérance, de cette foi qui ouvre les yeux et les oreilles. Il ne peut entendre Dieu parler, ni comprendre quand il parle, en lui donnant toutes sortes d'interprétations sur le plan naturel, alors que Dieu parle. Soit que ces hommes sont des participants aux œuvres des ténèbres, et que là, il est impossible d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup sont trop occupés dans notre monde aujourd'hui, trop occupés par les soucis de ce monde, les soucis de la vie. Ils vivent au niveau du matériel, au niveau du naturel, vivant leur vie de tous les jours dans un combat constant dans le monde physique pour assurer leur subsistance physique et leur confort. Tout leur temps ne passe qu'à cela et ils n'ont pas le temps de s'occuper des affaires de Dieu ou d'écouter sa voix. Même leurs pensées ne se tournent que rarement, peut-être même jamais, du côté du Créateur, du côté de Dieu. Et ils ne peuvent l'entendre ni l'écouter. Ils sont noyés dans le monde de la musique peut-être, dans le monde des paroles multiples, des discours, du bruit de la route, du bruit de la rue, assaillés qu'ils sont par toutes sortes de bruits, ils ne peuvent entendre la voix douce et subtile qui les appelle. Dieu désire avoir communion avec l'homme. Il désire lui parler, et il parle, mais on ne l'entend pas, on ne le perçoit pas. Perdu qu'on est par toutes sortes de choses, par toutes sortes de chansons qui parcourent le monde, desquelles les hommes remplissent leur tête, leur entendement, de chanteurs qui, par leur habileté naturelle, chantent à travers le monde et enthousiasment les foules, alors qu'eux-mêmes sont les plus malheureux des hommes. Les plus malheureux des hommes, jamais satisfaits, jamais heureux, quelle que soit cette musique que l'homme entend et qu'il aime entendre, que ce soit la pop musique, que ce soit le jazz, que ce soit d'autres musiques classiques ou autres, quand on voit bien souvent la vie de ces musiciens, qui certainement étaient des artistes, ce sont des hommes malheureux. Malheureux. Un Beethoven qui, lui, était certainement un génie et qui était sourd. D'autres aveugles, d'autres qui sont morts très jeunes. Mozart a commencé à faire des concerts à l'âge de 7 ans. Un génie, mais dont la vie était très courte, et la vie parsemée d'aventures de tout genre. Rien ne peut satisfaire le besoin, la langueur qu'il y a dans le cœur de l'homme, la recherche, le désir, qui s'exprime par une musique peut-être. Ce qu'il faut voir dans cette musique, c'est la soif de l'homme qui essaye de s'élever, qui essaye d'oublier les problèmes de ce monde. Une musique des fois sauvage, une musique impure, d'autres fois une musique harmonieuse. Peu importe cette musique, mais ceci nous montre la quête et la recherche de l'homme qui veut s'élever, qui veut rêver, qui veut parvenir à quelque chose qu'il pense accessible par la musique, mais qu'il ne le satisfait jamais. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous satisfaire. C'est celui qui nous a tant aimés. C'est celui qui nous ouvre la porte du royaume des cieux et qui nous offre le salut à travers le pardon de nos péchés, si seulement nous nous repentons. L'homme est toujours en quête. Il est en quête et en recherche. Mais il n'entend même pas lorsque Dieu veut lui parler. Il n'entend même pas, il ne perçoit même pas, trompé qu'il est par celui qui a saisi son attention, a saisi ses désirs purement charnels, ses désirs que l'homme exprime, mais de façon passagère. Dieu parle de tant de façons dans le monde. Il parle par de tant de façons. Il parle par sa parole. Par sa parole. Il est dans sa parole. Beaucoup d'hommes et de femmes lisent la Bible sans comprendre que Dieu leur parle. Et ils sont incapables même d'assimiler ce que Dieu veut leur dire. Ils ne le comprennent pas. Ils lisent la parole de Dieu avec leur intellect. Mais ils ne sont incapables de saisir le message que Dieu veut leur communiquer. Il parle aussi par les circonstances. Combien de fois Dieu parle par les circonstances? Par les circonstances de la vie que nous appelons un hasard, que nous appelons une chance. Mais le hasard et la chance n'existent pas. Oh non, mes frères! Dieu est préoccupé par chacun d'entre nous, chaque individu, quel qu'il soit, qu'il le connaisse ou qu'il ne le connaisse pas. Dieu les connaît. Dieu les connaît et Dieu les cherche. Et il cherche à leur parler par ce qu'il pense être des circonstances, des hasards, des accidents auxquels on échappe. Presque miraculeusement. Oh, j'ai eu de la chance. Oh, ma bonne étoile. Mais quelle étoile? De quelle étoile parles-tu? Il y a un ange qui t'accompagnait et tu ne le savais pas. Car Dieu a préservé ta vie pour une bonne raison. Il cherche à te sauver. Et il cherche d'une façon ou d'une autre à te faire comprendre qu'il t'aime. Peut-être tu ne vas pas le comprendre aujourd'hui, mais peut-être dans une année, tu le comprendras et tu viendras au pied de la croix. Et c'est pour cela qu'il t'a épargné. Dieu parle aux hommes. Tu dis, j'ai eu de la chance. J'ai échappé. J'ai eu de la chance. J'ai réussi. Non, il y a un Dieu au-dessus de toi. Il y a un Dieu au-dessus de toi et apprends à lui dire merci. Et à lui rendre gloire. À lui rendre gloire. Dieu parle à travers les calamités. Les calamités qui peuvent arriver dans ce monde. Il parle même à travers ces avions qui périssent en pleine mer et dont chaque passager a connu la mort. Dieu parle au monde et permet aux hommes de penser, de réfléchir. Notre vie, c'est quoi? Elle dépend de quoi? De quelques mécaniques? De quelques vents puissants? De quelques éclairs qui nous toucheraient? De quelque chose qu'on n'avait pas prévu? Notre vie dépendrait de cela. Certains passent sans problème, d'autres meurent dans cet accident. On peut dire pourquoi? Dieu veut nous appeler à réfléchir. À réfléchir, car il est le monde, il tient le monde dans sa main. Il y a des volcans qui crachent leur feu et leur dévastation autour d'eux. Il y a des tremblements de terre, des villes entières sont effacées de la carte, des milliers de morts, d'autres échappent. Comment se fait-il? Comme quelqu'un qui posait la question de cet homme qui allait ce jour-là au travail dans l'une de ses grandes tours à New York, le jour de cet attentat. Il allait à son travail, mais comme il avait des chaussures neuves aux pieds, il avait mal à un pied, il avait des ampoules. Au lieu d'aller au travail, à l'heure qu'il convient, il est rentré dans une pharmacie pour trouver un médicament ou quelque chose pour protéger son pied. Et voilà, il a échappé. Et les gens vont dire, il a eu de la chance. C'est une histoire au milieu de beaucoup d'autres dans cette terrible affaire des deux tours. On a entendu des témoignages extraordinaires. Dieu a épargné celui-là. Non, mais pas celui-là. Celui-là, mais pas celui-là. C'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est Dieu qui connaît ta destinée. C'est Dieu qui parle. Oh, les hommes vont expliquer. Ils vont expliquer beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui tient le monde dans sa main. Et il tient les gouvernements de ce monde dans sa main. Et il est le maître de cette planète Terre. Et si tu vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Voilà. Es-tu prêt à ce qu'il te prenne demain? Pourquoi est-ce qu'un Jacques a été décapité par Hérode? Et pourquoi est-ce qu'un Pierre, Dieu a envoyé un ange pour le faire sortir de la prison? Pourquoi l'un, Jacques, Dieu a décidé de le reprendre dans la gloire? L'autre avait une mission à accomplir. Ce qui convient de savoir, c'est que nous sommes entre les mains de Dieu et qu'il tient notre destinée dans sa main. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Dieu parle à travers les calamités naturelles. Dieu parle à travers sa création. Ces arbres qui poussent, ces plantes qui poussent, ces plantations, ce maïs qui produit à partir de la graine qu'on a mise en terre, cette seule graine va produire combien d'épis? Couvert de graines, de centaines de graines. La vie, ça c'est la vie, une vie végétale. Mais quel est l'homme qui peut créer la vie végétale? Où est-il? Cette petite graine minuscule qu'on met en terre, qui pousse et qui devient un arbre puissant et grand. Qui fait cela? Le hasard? Qui a mis cette puissance extraordinaire dans cette graine qui a bravé les temps, les pluies, les sécheresses et qui a produit un arbre qui à son tour produit encore. Dieu parle, il parle par la nature, il parle autour de nous de mille façons et il parle dans le silence des cœurs lorsque seul peut-être dans un coin, on est en train de réfléchir. Dieu parle dans le silence du cœur. Dans l'ancien temps, Dieu a parlé à travers la voix des prophètes. Nous le voyons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans l'ancien temps, il n'avait pas la parole de Dieu écrite comme nous l'avons aujourd'hui. Mais Dieu a pensé au dernier temps, et comme je l'ai déjà dit, cette Terre est couverte de milliards et de milliards d'habitants, alors qu'au temps des prophètes, il n'y avait même pas un milliard d'habitants sur cette terre. Frères et sœurs, Dieu a préparé la fin des temps et nous sommes des privilégiés, alors qu'il n'avait pas la parole de Dieu écrite telle que nous l'avons. Dieu a parlé par la puissance du Saint-Esprit, à travers la bouche d'hommes inspirés par lui pour porter un message qui couvrait leurs besoins à cette époque, mais qui couvrait aussi nos besoins dans ces temps de la fin. Bien souvent, ils n'ont pas compris le message qu'ils ont proclamé et que Dieu a voulu qu'il soit enregistré et écrit. Nous le voyons plusieurs fois où Dieu dit « écrit ». Il l'a dit à Jérémie, il l'a dit à Ésaïe, il l'a dit à tous ses prophètes d'enregistrer ses révélations. Pour nous aujourd'hui, Dieu parle. Dieu parle. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes comme l'ancien temps. Oh non, il y en a qui cherchent à être prophètes et ils se disent prophètes. Mais ils racontent n'importe quoi. Les prophètes que nous avons dans la parole de Dieu, c'étaient des champions de la révélation divine. Quand on lit le livre du prophète Ésaïe, Jérémie, Lamentations de Jérémie, Daniel et tous les autres. Nous sentons là une inspiration qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de Dieu. Et Dieu parle. Puissions-nous l'écouter, puissions-nous l'entendre, puissions-nous lire les Écritures. Et là, nous entendrons Dieu nous parler à notre cœur à travers des expériences souvent négatives de ceux qui prétendaient être son peuple, mais qui ont été infidèles et que Dieu a quand même, avec grande patience, exhorté, mais aussi jugé. Ce même Dieu qu'ils ont eu à cette époque-là, c'est le même que nous avons aujourd'hui, dans sa sainteté, dans sa puissance et dans ses exigences. Il parle, il n'a pas changé. Il aime les hommes. Il a parlé à travers la voix des prophètes et de tous ceux qui ont été inspirés par son esprit. Il a parlé à travers les écrits qu'il a inspirés par le Saint-Esprit aux apôtres dans le Nouveau Testament. Tout cela pour nous à la fin des temps. Que faisons-nous avec ça? Pour nous, en notre temps, il a parlé à travers le Fils. À travers le Fils. Lisons pour cela, s'il vous plaît, dans Hébreux, au chapitre 1er et au verset 1er jusqu'au verset 4. Il est écrit là. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. C'est ce que je vous disais. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Et le message qu'il a donné à vos pères est valable pour nous aujourd'hui, les enfants de ceux qui sont partis. Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Non seulement nous avons la révélation de Dieu, dans son plan, à travers la voix des prophètes du passé, ce qu'ils ont dit, beaucoup de ce qu'ils ont prédit, se sont réalisés, particulièrement avec la venue du Fils de Dieu, qui est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. Mais ils ont parlé encore de choses qui ne se sont pas complètement réalisées encore, mais qui vont bientôt se réaliser. C'est la raison pour laquelle nous pouvons prêcher avec assurance ce que nous prêchons, en prenant comme base ce qui est écrit par les prophètes et révélé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. Qui? Le Fils. Héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ah! C'est-à-dire par qui? Par le Fils. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Il n'est pas dit le monde, mais c'est au pluriel. Les mondes. Croyez-moi, dans cet immense espace qu'est l'univers, qu'y a-t-il? Les hommes aimeraient bien sonder l'univers. Ils envoient leurs sondes à travers l'univers. Mais croyez-moi, même si on touche la planète Mars, c'est encore très près, c'est tout près de la Terre. Car au-delà, il y a encore bien plus. Pensez donc, on calcule en années-lumière. Je vous en ai déjà parlé, vous le savez. La lumière fait 300 000 km à la seconde. Voilà. 300 000 km à la seconde multiplié par le nombre de secondes dans une année. Voilà l'unité de mesure pour l'espace. Et on parle de millions d'années-lumière. Aïe, aïe, aïe. C'est impossible de penser à de telles choses. Et vous allez me dire qu'on est allé loin, même si on va sur Mars. C'est tout près, quant à la Lune, elle est à côté. Les mondes, la Bible nous dit. Il a fait les mondes par lui. Par lui qu'il a fait les mondes. Ce fils, ne le négligez pas, ce fils. Ce fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. L'expression de l'être, de son être. De l'être de qui ? De Dieu. L'expression de son être. Jésus est une émanation de Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole, c'est l'expression de l'individu. Jésus est l'expression du Père. Jésus est l'incarnation du Père, l'expression du Père, l'expression du Père incarné. Voilà qui est Jésus. Dans l'Ancien Testament, le Dieu que nous voyons, c'est un Dieu terrible. À tel point que, lorsqu'il s'est manifesté au mont Sinaï, la terre tremblait. Il y avait une fournaise ardente. Une fournaise ardente, un vent impétueux. Les rochers étaient déchirés à tel point que, même Moïse a dit qu'il était épouvanté. Ça, c'est un aspect de Dieu. Sa sainteté. Oui, mais Jésus... Jésus, l'expression de Dieu, il est venu avec un autre aspect, l'aspect de l'amour, de la grâce, de la compassion. Tout ça, c'est la nature de Dieu et nous devons le comprendre. Et ceci nous fait connaître que Dieu ne va pas supporter les frasques des hommes, leur infidélité, leur méchanceté, leur violence, leur vol, leurs adultères et tout cela. Oh non! Car le Dieu de l'Ancien Testament, du Sinaï, c'est le même que nous adorons aujourd'hui. Seulement, il retient sa colère vis-à-vis du pécheur. Et par amour qu'il manifeste par le Fils, il veut nous sauver. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toute chose. Voilà. Il soutient toutes choses. Il soutient le monde. Il soutient nos vies. C'est lui qui est le maître de la vie. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Par sa parole puissante, il soutient toutes choses. Ce qu'il prononce existe. Après avoir accompli la purification des péchés. Ah, vous voyez, qui ? Le Fils. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis à la place de l'autorité. Qui s'est assis là ? Un homme, oui, car il s'est fait homme pour nous. Un homme. C'est lui qui nous attend dans la gloire. Car il fallait que ce soit un homme qui porte les péchés des hommes. Un ange ne pouvait pas porter les péchés des hommes. Oh non! Non. Il fallait le sang d'un homme. Mais où pouvons-nous trouver un homme saint, sans péché, pour prendre les péchés des hommes? Il fallait l'incarnation du Dieu en chair, du Dieu puissant qui a pris le corps d'un homme qui a grandi sur cette terre, qu'on a rejeté à cause de sa justice, de sa sainteté, les hommes préférant les ténèbres à la lumière. Il a fallu qu'il donne sa vie, qu'il prenne le courroux de Dieu, oui, ce courroux du Sinaï contre le péché, contre la violation de la loi de Dieu. Il a pris sur lui afin de nous épargner, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Le nom de Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et quoi encore? Des noms encore que nous découvrirons lorsque nous serons dans l'éternité. Oui, le Fils nous parle aujourd'hui. As-tu entendu sa voix? Il parle à travers sa parole, mais il parle par son esprit dans le cœur des hommes. Ceux qui entendent sa voix et qui n'endurcissent pas leur cœur seront sauvés par lui et deviendront alors des enfants de Dieu. Autrement dit, ils entreront dans sa famille. Chaque croyant partage sa filiation divine par adoption. Chaque croyant, il faut encore définir ce terme de croyant. Le mot de croyant est employé par d'autres religions, des religions d'un fanatisme terrible. Ils se considèrent comme des croyants et ils considèrent tous les autres qui ne sont pas avec eux comme étant des impurs, des rebelles, des méchants qu'il faut détruire. Et c'est même dans leur doctrine, en imposant ce qu'ils pensent devoir être. Et ils se disent des croyants. Quant aux autres, ce sont des infidèles. Quoi donc? Croyant, qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'abord d'avoir une base de sa foi. Nous sommes croyants en Jésus-Christ par la foi. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les œuvres suivent. Un vrai croyant, c'est un homme qui se soumet à l'autorité dans l'obéissance, l'autorité en celui dans lequel il croit. Non pas une soumission servile, une soumission obligée à travers des rites. Dieu n'est pas intéressé par les rites. Oh non! Il est intéressé par la transformation du cœur et une obéissance volontaire de l'individu. Voilà. Volontaire de l'individu. Et cet homme-là, donc, c'est un croyant. Et il démontre sa foi par ses œuvres. Des œuvres qui ne sont pas des rites, mais des œuvres qui sont une manifestation d'un changement de vie complète, qui ressemble à son maître. Et son maître lui démontre ce que c'est que la foi, ce que c'est que l'amour du prochain, le respect du prochain, la sainteté, la vérité, et combien d'autres qualités que le Seigneur veut que nous manifestions étant à sa ressemblance. Et celui-là devient enfant de Dieu par adoption. Et donc, cet homme, cette femme, devient héritier. Héritier. Il a donc également part à l'héritage divin. On en parlait dimanche dernier. Dans Galates 4, chapitre 4, verset 5, il est dit: lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Vous voyez, les temps furent accomplis. Il y avait un certain moment, un temps précis, où Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils à une période de temps particulière, c'est-à-dire à la fin des temps. Et la fin des temps a commencé avec le sacrifice de Jésus à Golgotha. Furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Ceux qui étaient sous la loi de Moïse, pas un d'entre eux n'a été capable d'obéir à toute la loi. Puisqu'il est dit que celui qui transgresse un seul commandement de la loi de Dieu, de la loi de Moïse, est transgresseur de tous les commandements. Donc, il ne s'est jamais trouvé un homme dans l'ancienne alliance capable d'obéir à toute la loi de Dieu. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il donné une loi si sévère? Il a donné cette loi d'abord pour rendre l'homme conscient de son péché. Ensuite, pour que l'homme sache que ce Dieu ne peut supporter le péché. Autrement dit, le standard de l'Ancien Testament pour l'homme de Dieu était un niveau inaccessible à quelque homme que ce soit, et même Moïse, à quelque homme que ce soit. Mais c'est pour cela que nous voyons dans l'Ancien Testament, malgré la loi et l'impossibilité à l'homme d'obéir à la loi, nous voyons la grâce en action. La grâce en action. Donc, ceux qui étaient sous la loi et qui croyaient et qui avaient cette foi agissante, ils croyaient dans ces sacrifices qui étaient faits pour leur péché, dans ces animaux parfaits qui n'étaient que un type de celui qui allait venir pour prendre le péché une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ce sang versé par ces animaux ne couvrait que le péché, mais ne l'ôtait pas. Et ils sont morts. Ils sont morts dans la foi. Ils ont attendu dans le séjour des morts jusqu'à ce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde soit offert en sacrifice pour le salut de ceux du passé, de ceux du présent et ceux du futur. Et c'est ainsi que tous ceux qui sont morts dans la foi en attente dans le séjour des morts ont été libérés du séjour des morts pour rentrer dans le paradis. On en a déjà parlé bien avant. Voilà. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous, qui sommes maintenant sous la grâce, recevions l'adoption. Voilà. Éphésiens 2, 19. Là, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu parle dans sa parole. Dieu parle. Ne considérez pas que c'est moi qui parle. Non, non. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Voilà ce que vous êtes. Vous, croyants, c'est-à-dire hommes et femmes qui mettaient en pratique sa parole, qui obéissaient à sa parole, qui avaient le caractère de Christ en nous. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Donc, héritier. Comme Abraham, héritier de la promesse. Nous devenons comme Abraham, le fidèle, héritier de la promesse. Lisez avec moi dans Romains 4, versets 13 et 14. Épître aux Romains, chapitre 4, versets 13 et 14, il est écrit « En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. Ce n'est pas par la loi que cet héritage lui a été promis. Non, mais c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. » Vous voyez? Personne ne peut hériter le royaume des cieux par la loi. Comme je vous l'ai dit, la loi n'est que pour nous révéler notre état vis-à-vis de Dieu. Mais la loi ne peut nous sauver. Si un homme pouvait, depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, pouvait obéir à tous les commandements de la loi sans jamais transgresser un seul commandement, il ne serait pas sauvé par la foi, il serait sauvé par les œuvres. Or, personne ne peut être sauvé par les œuvres. Personne ne peut obéir à toute la loi de Dieu. Il nous faut la grâce. Et la grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu et de la compassion de Dieu. Allons-nous mépriser ces choses? Oh non. Non. Donc, il nous est bien dit là, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. Ce n'est pas par la loi, impossible. Mais c'est par la justice de la foi d'Abraham. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Oh, merci Seigneur, merci, merci. Dans Galates 3, 29, il est écrit, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. » Aïe, vous voyez, Abraham et nous faisons qu'un. Abraham, c'était l'Ancien Testament, d'accord. Nous sommes maintenant sous la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, d'accord. Mais il y a jonction. Et quelle est cette jonction? La foi. Alléluia. La foi, la promesse faite à Abraham à cause de sa foi fait que nous aussi, nous rentrons dans cette promesse à cause de la foi d'Abraham que nous manifestons nous aussi de notre côté dans la Nouvelle Alliance. Vous êtes la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Cet héritage est le fruit de la grâce de Dieu. Et en aucun cas, cet héritage est le fruit de nos mérites. Non. Non. Si Dieu nous donne un tel héritage, ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens fantastiques. Ce n'est pas parce que nous avons obéi à ses commandements toute notre vie et que nous sommes obéissants en toutes choses et que nous avons toujours été obéissants. Non! Quel est celui ici qui n'a pas eu une vie honteuse dans le passé, une vie mauvaise dans le passé? Qui est-il? Où est-il? Frères et sœurs, aucun d'entre nous ici, nous ne pouvons être sauvés. Aucun, si ce n'est par la foi et par la grâce. Voilà. Et si nous sommes héritiers, c'est à cause de la foi et de la grâce. Voilà. L'héritage du royaume de Dieu, avec tous ses avantages, avec toutes ses richesses, est une décision du Dieu souverain envers ses enfants. Il nous considère être ses enfants parce que nous avons cru dans le sacrifice de Jésus-Christ et que nous nous sommes repentis et que nous avons désormais vécu une nouvelle vie avec Christ. Il nous considère ses enfants. Et à cause de cela, à cause des mérites de Jésus et non pas de nos mérites, il a décidé souverainement de faire de nous ses enfants et de nous rendre héritiers du royaume des cieux avec tous les avantages, toutes les richesses qu'il nous donne. Et croyez-moi, nous n'avons pas eu beaucoup encore de ces avantages. Nous en avons eu, attention. Le salut, la paix, la joie, l'assurance du salut, la protection divine. Tout ça, ce sont des avantages reçus à travers cet héritage. Mais il y a bien plus que cela. C'est pour cela, demeurez ferme. Ne lâchez pas. Je vous en conjure, mes frères, mes sœurs, continuez. Et marchez et grandissez sur ce chemin que vous avez choisi de servir, de suivre. Suivre le Seigneur. Dans Matthieu 25, 34, nous lisons ceci. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Comprenez-vous ce qui est écrit? Il dira à ceux qui seront à sa droite, car ce sera le jour de la grande séparation. À gauche, les boucs. À droite, les brebis. Reste à nous de savoir si nous sommes des boucs ou des brebis. Une fois que je prêchais là-dessus, il y a des gens qui ont dit, « Oh, il prétend que nous sommes des boucs. » Vous-même, vous savez si vous êtes des boucs. Vous savez, ça sent mauvais, les boucs. Hein? Et le péché sent mauvais. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage, voilà l'héritage, le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ah, dès la fondation du monde? C'est-à-dire, bien avant que j'existe. Oh, il y a combien de siècles maintenant? Bien avant que j'existe, Dieu a préparé un royaume pour moi, Jacques Verneau, pour Kazadi, pour Pindou, pour chacun de nous, pour Papa Maïcha, pour Kalaza, pour Kam. Il a préparé, avant que nous existions, pourquoi je nomme ces frères-là? Parce que je sais qu'ils sont sauvés. Alléluia. Et il y en a d'autres encore. On passerait du temps à donner tous les noms et du reste, je n'ai pas tous ces noms dans la tête. Mais Dieu connaît nos noms. Il a préparé ce royaume avant que le monde vienne, avant que le monde soit créé. Ce royaume, donc il savait tout ce qui allait se passer. Oui, il le savait. Mais il voulait se préparer au peuple qui choisisse pour lui, afin de régner avec lui, auquel il va donner des responsabilités dans ce monde. Régner avec lui. Des milliards d'hommes ont cru à travers tous les âges. Comment allons-nous régner avec lui? Regardez l'espace et vous comprendrez pourquoi. Je ne peux pas tout expliquer. Non, mais je peux vous dire, mes frères, persévérez. Ne marchez pas sur deux chemins à la fois. Un royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, préparé pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, dès la fondation du monde. Mais cet héritage, il n'est pas pour tous. Ah, écoutez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 9 à 10. Cet héritage n'est pas pour tous. Voici ce qui est écrit. Écoutez bien. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors vous savez, dans le monde, dans certains pays du monde, si vous lisez ça en public, ni les homosexuels, il y a des gens qui vont regarder comme ça, et peut-être la police va vous demander, mais, alors qu'en est-il du droit de l'homme? Droit de l'homme? Le droit de l'homme de faire n'importe quoi, de marier un homme avec un autre homme, une femme avec une autre femme, et d'adopter des enfants que vous n'avez pas mis au monde pour les tordre et leur donner un mauvais exemple et les détruire. Il n'y a pas si longtemps, quelques jours de cela, il y a eu des défilés de ces homosexuels à Paris en pleine rue. Et vous voyez le maire de la ville de Paris qui est homosexuel, qui est là à la tête. N'est-ce pas honteux? N'est-ce pas honteux? Où allons-nous? La colère de Dieu, frères et sœurs, on ne respecte même pas la personne humaine. On ne respecte même pas la personne humaine. Mais on parle de droit. De droit des homosexuels. Où est le droit? Quel est le droit des homosexuels? D'avoir les mêmes droits que ceux qui sont mariés légalement et qui vivent une vie normale et équilibrée? Mais il n'y a pas de droit là. Il n'y a pas de droit. La morale nous le dit déjà. Quant à la parole de Dieu, elle le crie bien fort. Voilà. Oui, cet héritage, elle est pour ses enfants. Mais ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume. 1 Corinthiens 15, 50, qu'a-t-il dit là? Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Ah! La chair et le sang. Chacun d'entre nous, nous avons un corps de chair dans lequel circule du sang. Dieu a dit, ce corps de chair ne verra pas Dieu. Voilà. Autrement dit, ce corps de chair, c'est un vase de terre qui va se casser un jour et qu'on va vite mettre dans un trou qui retournera la poussière. Mais dans ce vase de terre, il y a un esprit et une âme régénérés. Et pour cette âme et cet esprit, Dieu prépare un nouveau corps. Un corps tel que Jésus a eu après la résurrection. Un corps glorifié. Un corps, oui, un corps. Il est rentré dans la pièce, les disciples ont eu peur. « Mais non, touchez-moi, je ne suis pas un esprit. Touchez-moi. » Ils l'ont touché. « Thomas, mets ta main sur mon côté. Mets ta main, tes doigts dans mes mains. » Il a mangé devant eux. Ils étaient émerveillés. Un corps, oui, c'est vrai. Et puis tout d'un coup, il est parti. Il n'était plus là. Sur le chemin d'Emmaüs, de même, il parlait avec eux sur la route. Ils sont entrés dans l'hôtellerie. Ils se sont mis à table, c'était le soir. Il parle avec eux. C'est ce que les prophètes ont dit dans le passé. Jésus leur parle de tout cela. Et puis Jésus a pris le pain, il l'a rompu. Ils ont reconnu ce geste. Et à ce moment-là, ils l'ont reconnu. Il a disparu. Encore, la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui suivent. Qui va suivre? Nous qui avons cru. Un nouveau corps. Un nouveau corps. Alors, la chair et le sang ne peuvent rentrer dans le royaume des cieux. Oh non, c'est ce qu'il y a là à l'intérieur, dans cette maison provisoire. Dans cette maison provisoire, elle peut avoir toutes sortes de couleurs, noir, brun, jaune, blanc. Elle peut avoir toutes sortes de couleurs, cette maison. Ce n'est pas la couleur extérieure qui fait la maison, croyez-moi. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une vie éternelle. C'est la nouvelle naissance, c'est une nouvelle nature, c'est un nouvel homme, c'est une nouvelle femme. Voilà. Vous pouvez encore lire pour vous-même Éphésiens 5, 5 et Jacques 2, 5. Et nous allons encore lire ensemble le psaume 37, verset 29, où il est dit « Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais ». Mais quel pays? Est-ce que vous possédez le pays? Il y a des justes ici. Quel est le juste qui possède le pays? Oh non, non, non. Bien souvent, ce sont des magouilleurs qui possèdent le pays, c'est pas vrai? Qui possèdent le pays. Mais qu'est-ce que veut dire alors là, le Seigneur? Les justes posséderont le pays. Il parle de cette nouvelle terre où nous habiterons. Voilà. Les justes posséderont le pays et y demeureront à jamais. J'ai réfléchi sur ce mot jamais. Jamais, ça veut dire quelque chose qui n'est pas, qui ne sera pas. Voilà. À notre niveau, de notre intelligence, quelque chose qui demeure et qui demeure toujours et toujours et toujours, nous ne pouvons le comprendre. C'est pour ça que nous disons à jamais. Parce que dans notre compréhension, nous ne pouvons saisir. Nous ne pouvons pas dire toujours, 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 pendant une année. Non, non. Éternité. Qui comprend l'éternité? Voilà. Frères et sœurs, mais ne manquons pas cela. Notre vie est trop courte ici-bas sur la terre. Merci Seigneur de ce qu'elle est courte, parce que bientôt, nous allons rentrer dans cette dimension extraordinaire. Il est même dit dans les Hébreux au chapitre 1er et au verset 14 que les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Si vous avez hérité du salut, c'est qu'il y a eu une action inspirée par Dieu, une action menée sur vous à travers un ange qui vous a protégé dans cet accident, parce que Dieu savait que vous alliez l'accepter dans quelque temps, qui vous a gardé dans toutes sortes de situations, de maladies impossibles, alors que vous deviez mourir. Les médecins disent, tiens, c'est formidable, elle a vécu, il a vécu, c'est un véritable miracle. Mais oui, pourquoi? Parce que il sait que vous allez hériter du salut. Voilà, hériter du salut. Au service, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et croyez-moi, nous qui avons déjà hérité du salut, nous sommes aussi sous cette protection. Il nous garde. Si notre tâche n'est pas finie, nous irons à travers tout et n'importe quoi, Dieu nous protégera. S'il a décidé que nous devions partir, il nous prendra. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jacques a été décapité. Oui, il est parti. Mais Pierre, ce n'est qu'après un long ministère et une grande influence qu'il a exercée dans ce monde, qu'il est parti. Parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand on parle d'héritage, on parle aussi de mort. Ces deux choses vont ensemble. Pour que les choses, les clauses du testament qui a été fait soient exécutées, il faut que la mort intervienne. Dans Hébreux 9, 15 à 17, il est dit. Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Et ça, nous le savons. Ça, ce sont les normes légales. Les normes légales dans la parole de Dieu qui doivent être appliquées jusqu'à aujourd'hui. Il est médiateur d'une nouvelle alliance. Qui? Le Fils. Afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Il est parlé de la première alliance. Il fallait qu'il meure pour ceux qui étaient morts dans la foi de celui qui allait venir sous la première alliance. Ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Ceux qui sont appelés, ce sont ceux de la deuxième alliance. Pour nous, c'est du passé. Reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Ne manquons pas cet héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mort. Il est mort en tant qu'homme. Bien sûr, la mort ne l'a pas retenu. Elle ne pouvait pas le retenir. Mais il est mort en tant qu'homme pour porter les péchés des hommes. Il a versé son sang d'homme pur, sans péché, pour nous sauver. Et il est ressuscité. Oh, ça c'était la confirmation de son œuvre et de sa victoire en notre faveur. Voilà. Aucune personne ne peut jouir d'un héritage quelconque sans que le testateur, celui auquel les biens appartiennent, ne soit mort. Une personne peut bien donner une partie de ses biens, de son vivant, comme elle le veut. Elle en dispose, mais on n'appelle pas cela un héritage, non. Quand on parle d'héritage, on parle aussi de mort de celui qui avait les biens. Jésus est mort pour nous. Il a donné sa vie. Il est mort en tant qu'homme. Il est ressuscité en tant que nouvel homme avec un nouveau corps. Et à cause de sa mort, nous qui le suivons, nous héritons de lui le pardon des péchés, la vie éternelle, un nouveau corps et une nouvelle terre. Demeurez fermes, frères, sœurs, ne lâchez jamais. Baissons la tête. Ta parole est merveilleuse, Seigneur, et nous nous réjouissons à l'ouïe de ta parole. Ô mon Dieu, tu nous parles, oui, tu parles encore. Tu parles encore. Seigneur, que suis-je, moi? J'ai besoin, Seigneur, de cette parole. J'ai besoin que tu me parles et de communiquer ta parole. Seigneur, tu as choisi des lèvres humaines pour communiquer ton message. Donne à tes serviteurs d'être fidèles dans cette communication, car cette intelligence ne vient pas de nous, mais elle vient de toi, Seigneur, de ta parole, car tu parles aujourd'hui encore et tu parles au milieu de nous. Cette parole, vous l'avez entendue. Êtes-vous prêts? Chacun d'entre vous, frères, sœurs, qui que vous soyez, êtes-vous prêts pour entrer dans le royaume, pour prendre possession de votre héritage, héritage qui n'est pas à cause de vos mérites, de nos mérites, mais à cause des mérites de Jésus-Christ? Voulez-vous cet héritage? Si vous le voulez, levez-vous là où vous êtes et nous prierons pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour tous ceux qui veulent cet héritage. Ô mon Dieu, mais qui par là reconnaissent qu'ils ne l'ont pas encore. Ô Dieu, parle-leur, saisis-les par ta grâce. Seigneur, saisis-les, je t'en prie. Ô mon Dieu, et qu'ils deviennent aussi héritiers de ces choses. Aucun d'entre nous, que nous soyons jeunes ou vieux, nous ne maîtrisons le nombre de nos jours. Nous faisons bien. Bien de mettre notre vie en règle avec le Dieu puissant, notre Créateur. Seigneur, tu vois ces nombreuses personnes qui se sont levées à l'instant. Et je te demande, mon Dieu, que tu œuvres dans leur cœur et dans leur âme. Seigneur, qu'ils te livrent leur cœur tout entier, qu'ils te confessent leurs péchés, qu'ils abandonnent ces choses desquelles ils ont honte, ces choses qu'ils font comme le monde et qu'ils se laissent entraîner par l'ennemi. Ouvre-leur les yeux et les oreilles et qu'ils entendent, ta voix qui leur parle, Seigneur, et qu'ils, Seigneur, marchent dans tes traces. Que ces hommes et ces femmes soient des croyants, mais des croyants, Seigneur, non pas en théorie, mais en pratique. Non pas, Seigneur, des rites, mais, Seigneur, une réelle action du cœur, une acceptation du cœur, d'un cœur changé, fait ce miracle dans leur cœur et dans leur vie. Merci, Père, merci. Donne-leur le courage d'aller jusqu'au bout et ne pas se compromettre avec le monde. Je les remets entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Reprenez vos places. Seigneur, nous te demandons de sanctifier ces dîmes et ces offrandes à cette heure. Ô mon Dieu, que tu nous secours et que tu nous aides dans ces temps difficiles. Seigneur, chacun d'entre nous, dans nos travaux, dans tout ce que nous faisons, afin que nous puissions soutenir ton œuvre et que ton message aille à travers notre pays et au-delà, le message du salut, de la repentance, de la vie nouvelle, de l'espoir éternel. Sanctifie ces offrandes et ces dîmes au nom de Jésus.
J'ai l'assurance de mon salut.
son sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire.
C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant.
Louez mon sauveur.
Parfait repos,
parfait repos, parfait bonheur en toi, mon sauveur. J'ai la paix du cœur.
Dévotion matinale chaque matin, sauf le dimanche, chaque jour, sauf le dimanche, de 6h à 7h. Les conseillers sont à la disposition des nouveaux venus, ceux qui ont besoin d'entretien et ceux qui sont touchés par la parole. Le mardi 30 juin 2009, les mamans annoncent qu'il n'y aura pas réunion des mamans. Par ailleurs, les papas vont tenir leur réunion derrière à la chambre haute et la réunion de l'école de disciples à 16h30. Côté des conteneurs. Mercredi, réunion de partage à partir de 15h30 à la chambre haute. À lecture de la semaine, psaume chapitre 108 à 127. Vendredi, c'est notre journée de jeûne et prière à partir de 9h jusqu'à 19h. Elle est divisée en trois tranches. La première, elle commence de 9h jusqu'à 13h. La deuxième, c'est de 13h, de 14h plutôt, jusqu'à 16h30. Et puis, 17h30 jusqu'à 19h. Le service d'accueil confirme la tenue de la réunion de prière et d'évaluation cet après-midi à partir de 15h à la chambre haute. Tous les membres du service d'accueil des mamans, des papas, de la jeunesse et de l'équipe de dimanche qui ne sont pas au service ce dimanche sont attendus à cette réunion. En outre, il demande à la personne qui a oublié sa Bible hier soir dans l'église de voir le frère Ignace au bureau du département d'accueil. Le département d'évangélisation signale l'action évangélique le dimanche prochain, 5 juillet 2009, à l'hôpital de Makala et celui de Kintambo après le deuxième culte. Les dons sont à déposer au secrétariat de l'église. Le ministère des couples mariés organise l'excursion au jardin botanique de Kisantu, ce mardi 30 juin 2009. Le droit de participation est de $25 par couple avec un pique-nique venant de chaque couple. Pour l'enregistrement, voir les conseillers conjugaux, date limite ce dimanche 28 juin à minuit. Bienvenue à tous les couples mariés et fiancés. Le ministère de couples fiancés y a entretien avec les couples fiancés dans la cour de l'école maternelle après les cultes. Pour le camp biblique pour enfants, ça sera au centre Johanna Verneau, 10 avenue Mbama, Binza Upen, dimanche 26 juillet au samedi 1er août 2009 pour les juniors, donc de 6 à 11 ans. Frais de participation, c'est $15. Dimanche 2 au samedi 15 août 2009 pour les adolescents de 12 à 16 ans. Frais de participation, $25. Il est demandé de retirer la fiche de renseignement contre paiement de frais de participation. Louange et adoration, enseignement de la parole, jeux bibliques, sport, écoute et conseils, prières, pique-nique, communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse. La jeunesse tiendra sa réunion le dimanche 5 juillet 2009 à 16h. Elle annonce aussi la tenue de la retraite annuelle des jeunes du 16 au 22 août qui aura pour thème l'intelligence de 16 ans. Le montant à payer est de $15. Les enseignements pour ceux qui veulent être baptisés et devenir membres de l'Église se poursuivent aujourd'hui à 15h. Communiqué du complexe scolaire de La Borne. La direction du complexe scolaire La Borne informe le public qu'elle procède à un recrutement des enseignants dans les classes et disciplines suivantes. Primaire, secondaire. Ils ont besoin d'un prof de français et de l'anglais. N'oubliez pas, le test de recrutement est fixé au jeudi 9 au vendredi 10 juillet 2009 à partir de 9h au centre Johanna Verneau. Elle informe en outre les parents désireux d'inscrire leurs enfants que les inscriptions sont en cours et vont jusqu'au vendredi 28 août 2009 dans les classes et sections ci-dessous. Maternelle, toutes les classes. Primaire, toutes les classes. Secondaire générale, toutes les classes. Humanité, littéraire, scientifique, commerciale, administrative. N'oubliez pas, tous les dossiers sont à déposer au secrétariat de la coordination sur l'avenue Mbama, quartier UPN. Le jeudi 2 juillet 2009, il y aura bénédiction nuptiale du frère John Muindo et la sœur Rachel Nabintu à notre aumônerie de la prison centrale à 16h. Et le samedi 4 juillet 2009, il y aura bénédiction nuptiale du frère Willem Chibalunga, Kembi et Pascaline Makabu Ilenda. Toute l'église est invitée. Je vais inviter le pasteur Verneau pour la fin du culte.
Lève-nous, s'il vous plaît. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais tu nous enseignes et tu veux nous faire connaître les choses à venir. Et Seigneur, les droits que tu nous donnes, alors que nous n'avions aucun droit. Seigneur, en tant qu'enfant du Dieu puissant, tu nous donnes des droits. Et nous te remercions pour ta grande grâce et ta miséricorde. Dans ta souveraineté, tu as fait de nous tes enfants. Donne-nous, aide-nous à marcher dignement sur le chemin qui nous est tracé, afin que nous ne perdions pas la couronne. Accompagne-nous dans nos maisons maintenant, dans la paix et sous ta divine protection. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. dès aujourd'hui? Devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.